question dont la réponse nous aidera à avoir une meilleure relation avec Dieu. Est-il bon de se retrouver seul avec Dieu? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui nous aidera à mieux le connaître, aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on n'a pas beaucoup de questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui, mais je suis certaine que les réponses qu'on va recevoir nous aideront dans notre marche avec Dieu. Et s'il y en a parmi vous qui n'avez pas encore une relation personnelle avec lui, vous allez pouvoir apprendre ce qu'il faut faire pour en avoir une. Alors voici les questions qu'on va poser au livre de Daniel. Est-ce qu'une prophétie peut avoir une double application? Existe-t-il seulement une catégorie d'anges? Est-ce que le prophète Daniel a vu le Seigneur Jésus? Qui peut nous montrer ou nous révéler le Seigneur Jésus? Est-il bon de se retrouver seul avec Dieu? Demeurez avec nous. Le Seigneur va répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais avant tout, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous désirons ta présence. C'est tellement bon de goûter que tu es là. Parle à nos cœurs, ouvre nos cœurs, aide-nous à les ouvrir, mon Dieu, et fais pénétrer ta parole pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, qu'on puisse marcher avec une passion pour toi constamment. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous ne pouvons pas plaider nos propres mérites devant Dieu, ou encore s'appuyer sur qui nous sommes pour obtenir quelque chose de Dieu. Au contraire, il faut plaider les promesses de Dieu et nous appuyer sur sa grâce, sa miséricorde et ses compassions. Daniel a été appelé un bien-aimé dans le ciel. Le croyant est un bien-aimé et il est accueilli au ciel parce qu'il est en Jésus-Christ. De plus, nous avons examiné la prophétie des 70 semaines. Nous avons vu que le mot hébreu, shabuwa, traduit semaine, signifie en fait une quantité de 7. Tout comme notre mot douzaine signifie une quantité de 12. Le mot peut donc référer à des jours, des semaines, des mois et des années. Les 70 semaines représentent 490 années. 483 années se sont déjà écoulées, et la 70e semaine sera celle de la grande tribulation qui est encore à venir. Elle durera 7 ans. Deux événements majeurs doivent se produire entre la 69e et la 70e semaine. Le Messie, Jésus-Christ, doit être crucifié et la ville de Jérusalem doit être détruite. La destruction de la ville a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. 6 choses doivent être accomplies pendant les 70 semaines. Premièrement, les transgressions d'Israël doivent cesser. Deuxièmement, mettre fin au péché collectif d'Israël. Troisièmement, expier l'iniquité. Quatrièmement, amener la justice éternelle. Cinquièmement, sceller la vision et le prophète. Et sixièmement, oindre le lieu très saint. Aujourd'hui, nous étudions les 10 premiers versets du chapitre 10 du livre de Daniel. Les 3 derniers chapitres de ce livre traitent de la même vision. La vision concerne l'avenir immédiat de la nation d'Israël et aussi ce qui se produira avec Israël dans les derniers jours. Certains érudits considèrent que la dernière vision de Daniel est la plus grande de toutes. Bien que ce ne soit peut-être pas le cas, nous examinons tout de même une portion unique de l'Écriture. Sous certains aspects, ce texte diffère de tous les autres. Dans cette dernière vision, même la méthode de révélation est différente. Une prophétie peut avoir une double application. Ce texte donne aussi beaucoup de détails au sujet des visions précédentes. Alors que tout était prophétique au temps de la rédaction du livre, présentement, une bonne partie des éléments prophétiques est déjà accomplie et est devenue de l'histoire. Cependant, plusieurs éléments conservaient leur nature prophétique et ils seront accomplis dans les derniers jours. La ligne de démarcation entre ce qui est accompli et ce qui ne l'est pas est parfois floue. Nous avons déjà expliqué qu'une prophétie pouvait avoir à la fois une application immédiate et une application pour un avenir plus lointain. L'accomplissement de la prophétie dans l'immédiat nous aide à comprendre son application pour le futur lointain. Par exemple, l'accomplissement de la prophétie dans la personne d'Antioche Épiphane nous donne une idée de ce que sera l'accomplissement des prophéties au sujet de l'Antéchrist. La clé pour comprendre ces trois derniers chapitres est trouvée dans l'explication que l'ange donne à Daniel. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Verset 14. Autrement dit, il coulera beaucoup d'eau sous les ponts avant l'accomplissement de cette vision, et elle concerne le peuple de Daniel, le peuple d'Israël. N'essayez pas de voir l'Église dans ces versets, car le prophète Daniel affirme clairement qu'il parle de son peuple. Nous abordons une section étrange. Le rideau qui cache le monde spirituel est légèrement entrouvert, et nous avons un aperçu du monde invisible. Cependant, nous ne trouvons rien pour satisfaire la curiosité morbide d'une personne qui aime spéculer au sujet de l'au-delà. Par contre, nous en apercevons suffisamment pour faire réfléchir un croyant humble, comme ce fut le cas avec Daniel. Quelles sont les deux grandes classes d'anges? Cette petite intrusion dans le monde spirituel nous fait découvrir les deux grandes classes d'anges. Les anges demeurés fidèles à Dieu et les anges déchus. Les bons anges et les mauvais anges. Nous allons apercevoir quelque chose au sujet du royaume de Satan, un royaume qui nous entoure aujourd'hui. De nombreuses personnes prennent un petit fait à ce sujet pour en faire un livre d'histoire. Nous allons nous en tenir aux faits que la Bible nous enseigne. Il semble que les anges exercent un libre arbitre, et nombre d'entre eux ont volontairement suivi Satan alors qu'il a fomenté une rébellion contre Dieu. Les anges déchus sont les démons dont on parle dans les évangiles. Les anges sont partagés en différentes catégories, différentes classes et différentes positions. Ils n'ont pas tous les mêmes habilités et la même puissance. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Cela partage les créatures de Dieu entre celles dans les cieux et celles sur la terre, entre les visibles et les invisibles. Il y a tout un monde qui est invisible. Nous découvrons que nous savons très peu au sujet de notre monde rempli d'énergie. Les catégories d'anges. Le texte cité dit que le Seigneur Jésus a créé les trônes. Ces trônes sont les archanges tels que Michel et Gabriel, ainsi que d'autres envoyés spéciaux. Il y a des dignités qui sont les chérubins et les séraphins. Il mentionne les dominations qui seraient les généraux, les hauts gradés de l'armée des cieux. Les autorités seraient les soldats qui servent d'anges gardiens. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 4. Certains anges parmi les dominations, c'est-à-dire les généraux, sont tombés et se sont ralliés à Satan. Notez ce que l'on dit au sujet des autorités. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Les anges de Satan sont aussi organisés en une hiérarchie. Lorsqu'une armée combat une autre armée, il y a des généraux des deux côtés. Les dominations, ou les généraux de Satan, semblent veiller sur les nations. Ces autorités sont les démons qui cherchent à posséder les êtres humains. Les princes de ce monde de ténèbres sont les démons qui sont responsables des affaires du monde, et ils sont très actifs, comme nous pouvons le voir par l'actualité. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont les démons qui s'occupent du ministère de la religion, et c'est probablement le plus gros département. Ils veillent de près sur les religions. De nombreuses personnes pensent que Satan est contre les religions, mais ce n'est pas le cas. Il fait la promotion de la religion. pas de la personne de Jésus-Christ, mais de la religion. Ces deux groupes d'anges, les bons et les mauvais, sont actifs dans l'univers dans lequel nous vivons. Les démons font tout ce qu'ils peuvent pour capturer l'âme des hommes. Nous en apprendrons davantage sur ce sujet dans cette section. Chers amis, débutons notre lecture du prophète Daniel, chapitre 10, verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. La troisième année de Cyrus était probablement l'an 534 avant Jésus-Christ, soit 4 ans après la vision des 70 semaines. Daniel devait être très âgé et à la retraite. Il ne devait plus s'occuper des affaires de l'État. Une parole fut révélée à Daniel. Cette expression suggère que Dieu employait un nouveau moyen de communication. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Une comparaison des différentes versions de la Bible font ressortir l'idée de grandes difficultés, d'un grand combat et d'un long combat. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Daniel a clairement compris le sens de la vision. Versets 2 et 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Daniel a été bouleversé pendant 3 semaines. Le texte ne dit pas la raison exacte du deuil de Daniel. Cependant, nous pouvons penser à une possibilité. Nous sommes dans la troisième année du règne de Cyrus, et lors de la première année de son règne, Cyrus a émis un décret autorisant les Juifs à retourner dans leur pays. Esdras, chapitre 1, les versets 1 à 4. Cela fait 2 ans, et seulement quelques Juifs sont retournés dans leur pays sous la direction de Zorobabel. Le groupe qui est revenu sous la direction de Esdras et celui sous la direction de Néhémie n'ont pas encore quitté le pays de leur captivité. Cela a été une période difficile pour Daniel. Cela a attristé le cœur de ce vieillard âgé de plus de 90 ans. Il était triste parce que son peuple ne retournait pas dans son pays. Après avoir servi 1 an sous Cyrus, il s'était probablement retiré et maintenant il servait Dieu. Il a jeûné pendant 3 semaines parce qu'il n'a pas eu une réponse immédiate à sa prière. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Daniel nous donne le lieu et la date exacte de la vision par laquelle il a reçu une révélation. Il était près du fleuve Hiddekel, que nous appelons le Tigre aujourd'hui. Le 24e jour du mois de Nisan correspond au 24 avril. Daniel mentionne des dates précises. Ce fait embête les critiques, car avec une date si précise, il est difficile d'affirmer que le livre a été écrit beaucoup plus tard. Je pense que Daniel a vu une transfiguration du Seigneur Jésus avant Moïse et Élie sur le mont de la transfiguration. Il y a toujours eu 3 représentants. Moïse représentant la loi, Élie représentant les prophètes et Daniel représentant le groupe qui a connu l'exil. Dieu lui accorde maintenant une vision du Seigneur Jésus glorifié afin de l'encourager. Poursuivons notre lecture de Daniel, chapitre 10, versets 5 et 6. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Qui est l'homme que Daniel a vu? Ceci est un nouveau type de révélation. Daniel ne voit plus de bête épouvantable, il voit une figure d'homme. Qui est cet homme? Certains commentateurs hésitent à l'identifier. Et ils évitent le sujet en affirmant qu'il est un visiteur céleste. Ceci est tellement général qu'on ne peut se tromper avec une telle affirmation. De toute évidence, nous sommes en présence d'un visiteur céleste. Cependant, affirmer cela n'est pas le résultat d'une exégèse du texte. Je pense que cet homme est le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il a donné plusieurs paraboles, et certaines parlaient de l'autorité d'un homme. Cet homme était soit Dieu le Père, soit le Fils de Dieu. Dans le verset devant nous, l'homme est identifié par sa personne et par ses vêtements. Cette description ressemble beaucoup à celle du Seigneur Jésus glorifié qui est apparu à Jean dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse, chapitre 1, les versets 12 à 16. Ceci est une vision du Seigneur Jésus, et je pense que Daniel l'a vu. Et non, une pré-incarnation de lui. Il a vu le Seigneur Jésus dans sa forme glorifiée après sa résurrection alors qu'il exerce les fonctions d'intercesseur, de juge et de berger. Israël et l'Église sont appelés ses brebis. Moïse et Élie étaient présents lors de la transfiguration du Seigneur Jésus dans les Évangiles. Cependant, Daniel n'y était pas. Pourquoi ? Probablement parce qu'il avait déjà vu le Seigneur Jésus transfiguré, et l'avènement est raconté dans ce chapitre du livre de Daniel. Lisons le verset 7. « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. » Un ange ordinaire, ou même un archange, n'aurait pas eu un tel effet sur les hommes qui étaient avec Daniel. Qui peut nous montrer ou nous révéler le Seigneur Jésus? Bien qu'il n'ait pas été seul, Daniel seul a vu la vision. De nombreux incidents racontés dans la Bible nous prouvent que seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler ou nous montrer le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il fait ici. Il montre le Seigneur Jésus à Daniel. En parlant de l'Esprit, le Seigneur Jésus a dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 14. L'apôtre Paul a eu une expérience semblable à Daniel sur le chemin de Damas. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le livre des Actes, chapitre 9, versets 7 et 8. L'apôtre Paul a vu le Seigneur Jésus glorifié et il est devenu aveugle. Revenons à Daniel, chapitre 10. Lisons le verset 8. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Daniel se retrouva seul. Cela a été une expérience merveilleuse pour cet homme de Dieu, et plusieurs personnes ont éprouvé la joie d'une telle expérience. Abraham a quitté Ur, et finalement sa famille, pour se retrouver seul avec Dieu. Moïse a dû fuir dans le désert de Madian, et il était seul avec Dieu, devant le buisson ardent. Élie a été discipliné au torrent de Kérit, où Dieu était avec lui. Seul Dieu accompagnait Jérémie au cours de sa mission difficile. Jean le Baptiste prêchait dans le désert, mais Dieu était avec lui. L'apôtre Paul a passé 2 ans emprisonné et isolé dans ce même désert. Dieu a eu l'occasion de le former. L'apôtre Jean s'est retrouvé exilé sur l'île de Patmos, mais Dieu était avec lui. Essayez-vous de vous retrouver seul avec Dieu? De nombreuses personnes désirent prier lors de grandes assemblées. Elle recherche les réunions de prière achalandées, mes amis. Essayez-vous de vous retrouver seul avec Dieu? C'est là que Dieu va vous rencontrer. Prenez votre Bible et retirez-vous à l'écart pour un face-à-face avec Dieu, pour un moment privilégié avec Dieu. Cela vous fera un grand bien. Est-ce qu'il y a un auditoire devant moi lorsque j'enregistre ces émissions de radio? Non, mes amis, je suis seul devant un micro dans une petite chambre insonorisée. La porte est fermée. Je suis seul avec Dieu. C'est merveilleux. C'est alors que Dieu me parle. C'est alors que Dieu utilise le vase de terre que je suis pour proclamer sa parole. C'est lui qui donne de la puissance à sa parole. C'est le contraire des non-croyants du monde. Ils recherchent la compagnie. Ils fuient la solitude. Ils vont dans les clubs de nuit avec des amis. Ils sortent en groupe. Ils aiment être entourés. Ils n'aiment pas la solitude et ils la fuient. Jacob n'aimait pas être seul, mais un soir, Dieu l'a rencontré et il a lutté avec lui alors que les deux étaient seuls. Dieu l'a rendu infirme afin de gagner son cœur. Dans le texte que nous examinons présentement, Daniel est seul en présence de Dieu et il reçoit cette vision du Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Je perdis toute vigueur ». La vision de Jésus-Christ a eu tout un effet sur lui. Lisons le verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il semble que Daniel ait perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps il a été dans cet état. Le Seigneur Jésus est parti. Daniel a retrouvé ses esprits, et il s'est rendu compte qu'un ange était venu s'occuper de lui. Daniel était étendu sur le sol et une main l'a touché. Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. C'est le Seigneur Jésus glorifié qui a envoyé cet ange afin qu'il réponde aux questions de Daniel. Qui était cet ange? Il aurait pu être Gabriel, puisque c'est lui que Dieu a envoyé à d'autres occasions. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité qu'un autre ange ait été envoyé. Mes amis, quand est-ce que vous avez passé du temps seul avec Dieu pour la dernière fois? Quand est-ce que vous vous êtes isolé avec votre Bible pour la lire et prier afin que le Seigneur parle à votre cœur? Tous les chrétiens que je connais et qui prennent un temps à part dans un endroit tranquille pour faire le point avec le Seigneur sortent bénis de cette expérience. Dieu se fait connaître. Il se révèle à ceux qui prennent le temps de lire et méditer sérieusement sa parole. Chers amis, je vous encourage fortement à tenter l'expérience si vous ne l'avez jamais fait. Si vous n'avez pas l'assurance que vous irez au ciel pour l'éternité, je vous encourage à prendre le temps de lire l'Évangile selon Jean et de demander à Dieu de vous donner l'assurance de votre salut. Oui, chers amis, si vous voulez connaître Jésus-Christ, lisez les 4 premiers livres de votre Nouveau Testament. Les Évangiles, écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, et par le fait même, vous pourrez rencontrer l'auteur, le vrai auteur de ces lettres, de ces Évangiles, qui est le Christ lui-même. Si vous connaissez le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, c'est un excellent moyen de vous rapprocher de Dieu et de connaître sa volonté pour votre vie. Et par le fait même, lisez les épîtres de Paul pour connaître la vie d'Église, la vie qui est entrée en nous par le Saint-Esprit et qui veut s'exprimer maintenant dans un rassemblement de croyants qu'est l'Église, le corps de Christ. Oui, isolez-vous pour lui parler. Laissez-le vous parler au moyen de sa parole. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Daniel, chapitre 10, les versets 10 à 21. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Malgré le peu de questions qu'on a posées à la parole de Dieu aujourd'hui, je suis tiraillé entre deux sujets qui nous ont été si bien enseignés. Je crois que je vais parler des deux. Premièrement, on a eu une description du Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Régent a mentionné que Daniel l'avait vu dans une vision et ça l'a amené aussi à la description de Jean dans l'Apocalypse. Chaque fois que je lis cette description, je me rappelle premièrement de celle qui le décrit dans le livre d'Ésaïe, qui est si contraire à l'image que j'avais dans ma religion quand j'étais petite. Dans le livre d'Ésaïe, à la fin du chapitre 52 et au chapitre 53, Jésus nous est décrit comme ayant été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Et ce même livre de la Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il dit qu'il s'est chargé de nos iniquités, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Oh, mes amis, voyez-vous comme moi que ce sont nos péchés qui ont fait ça au Seigneur Jésus. Mais ensuite, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, comme nous l'a décrit Réjean aujourd'hui, on peut maintenant voir Jésus avec une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs, comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Son visage est comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Waouh! Ce n'est pas surprenant que je désire parler aussi du deuxième sujet que Réjean nous a enseigné, et c'est le fait d'aimer passer du temps seul avec ce Jésus d'amour, ce Jésus resplendissant, ce soleil. Je me rappelle qu'il a été défiguré à cause de moi, et que maintenant il est resplendissant après avoir payé ma rançon en mourant sur la croix. Depuis que je suis né de nouveau, depuis que Jésus est devenu mon Sauveur et mon Seigneur, j'aime passer du temps seul avec lui, à chanter des cantiques pour lui, à le louer, à l'adorer, à chercher sa volonté en lisant la Bible, sa parole, en la méditant, et aussi en lui confessant mes péchés et en recevant le pardon d'un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, mes amis, je vous encourage, matin et soir, à aller seul dans la présence de Dieu pour communier avec lui et pour vivre des moments exceptionnels, même ici-bas, dans l'attente de son retour. On est tellement bien dans sa présence. Des fois, on n'a pas le goût, des fois, on est fatigué, mais il suffit d'une courte louange, il suffit de lui dire « Seigneur, je t'aime, et tu es grand et merveilleux », pour qu'il nous incite lui-même, par son esprit qui habite en nous, à continuer à le louer et à chercher sa face, à aller ouvrir notre Bible pour entendre ce qu'il veut dire, que notre cœur entende ce qu'il veut nous dire. Des fois, il veut nous consoler, puis c'est quand on est triste qu'on n'a pas toujours le goût de faire ça. Mais justement, quand on est triste, on peut lui dire, « Seigneur, je suis triste en ce moment. Viens parler à mon cœur, j'ai besoin de toi. » Et il le fait. Il entend le cri du cœur. Alors, mes amis, j'aimerais terminer par une courte prière. Merci, Seigneur, d'avoir payé si cher pour que je puisse habiter dans les lieux célestes pour l'éternité. Tu es mon Dieu merveilleux.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.